Vivre FM podcast. Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM, Vincent Lockman.
On va parler d'hébergement et de logement ce matin sur l'antenne Vivre FM avec notre invité Léonard Zitunga. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des hébergements. Puis il y a une petite parenthèse après cette fédération. On dit VIH et autres pathologies, c'est-à-dire que votre fédération regroupe des lieux de logement pour des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Pourquoi est-ce qu'il faut que ces personnes soient logées dans des structures particulière, spéciale, il y a un besoin particulier?
Alors, notre fédération, effectivement, regroupe des appartements de coordination thérapeutique ou des appartements relais, en résumé, des hébergements qui ont un lien avec le soin. Pourquoi? Ils accueillent les structures qu'on fédère, ils accueillent les personnes qui sont en situation de fragilité psychologique ou sociale, et dans ce cas, ils ont besoin d'un hébergement pour pouvoir entamer ou continuer le soin.
C'est pas des lieux hospitaliers. On n'est pas à l'hôpital chez vous.
Pas du tout. On n'est pas à l'hôpital. On est dans un hébergement temporaire où on accompagne les personnes sur le plan de la santé, de la situation administrative, pour les amener vers le logement.
Temporaire, c'est-à-dire 15 jours ou dans?
Alors, temporaire, effectivement, vous avez raison, et ça peut aller de 6 mois à 18 mois. C'est le délai nécessaire qu'on puisse accompagner la personne et qu'elle puisse accéder à son logement de droit commun. Et aussi, aujourd'hui, nous avons un rapport que nous éditons qui nous montre que plus de 50% des personnes que nous accueillons accèdent au droit commun, ce qui montre la qualité de l'accompagnement qui est fait dans ces dispositifs.
Alors, pour qu'on comprenne bien, quel est le parcours? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parcours comme ça, type des personnes qui viennent chez vous? Est-ce que c'est à la sortie de l'hôpital, d'une hospitalisation par exemple?
Alors, tout parcours est singulier, mais on peut dire que les personnes qui nous arrivent, c'est soit les personnes qui sortent de l'hôpital, qui, à la sortie de l'hôpital, n'ont pas de logement ou d'hébergement, ou la situation de santé fait que la personne a besoin d'une équipe de médicale, d'une équipe sociale, pour l'aider à continuer à rester dans le système de soins. Ça, c'est une situation. On peut aussi avoir des personnes qui sont en situation de précarité, des fois qui sont dans la rue, qui découvrent qu'ils sont malades, et la situation ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation, et on les accueille pour entamer ou conforter les soins.
On peut imaginer que, par exemple, si on a un VIH, enfin le SIDA, d'autres pathologies type un cancer, une hépatite, enfin des maladies graves de cette nature, on soit obligé de s'arrêter de travailler et donc du coup voir ses revenus baisser. Est-ce que la question du social, c'est-à-dire simplement de payer son loyer, c'est une des raisons qui font que des gens aujourd'hui arrivent chez vous?
Alors, je dirais que pour arriver chez nous, il faut avoir besoin d'une coordination médicale qui est assurée par un médecin. Il faut avoir besoin d'un accompagnement des travailleurs sociaux. Il faut être dépourvu de logement ou d'hébergement. Donc le seul fait qu'il y ait la réduction des ressources n'amène pas nécessairement chez nous. Mais effectivement, il y a des situations où la réduction des ressources entraîne des difficultés et qui peuvent amener les personnes à aller dans nos dispositifs.
Pour qu'on comprenne bien, il existe des lieux d'hébergement qu'on appelle hébergement d'urgence pour des gens qui sont à la rue, type Emmaüs, type hébergement d'urgence de cette nature. Vous n'êtes pas non plus dans cette catégorie-là, si on devait vous mettre dans une case.
Alors, je dirais, pour simplifier, que les structures que nous fédérons, les ACT, les appartements relais, même ce qu'on appelle les lits ACT, Alte Soins-Santé, appartements de coordination thérapeutique, et les lits Alte Soins-Santé, ce sont vraiment des lieux où on est besoin d'un accompagnement social. Social, ça veut dire quoi? Où on a besoin d'être aidé dans ces démarches et d'un accompagnement par rapport à la santé. Ça veut dire quoi? Aider la personne à prendre ses traitements, aider la personne à comprendre la maladie, notamment ce qu'on développe au niveau de notre fédération, l'éducation thérapeutique patient, alors qu'au niveau de l'accueil d'urgence que vous évoquez, on a seulement besoin d'un toit, on n'a pas nécessairement besoin il n'y a pas de problématique de santé.
Comment se loger quand on a une maladie grave, une maladie invalidante? On en parle avec Léonard Zitunga ce matin. Vous êtes le président de la Fédération nationale des hébergements. On marque une petite pause et puis on retourne tout de suite avec la FNH.
Invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lottmann.
Léonard Zintunger est notre invité ce matin. On parle d'hébergement pour des gens en grande précarité avec une ou des pathologies. Léonard Zintunger, ce type d'hébergement, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. On peut peut-être raconter comment ça a été créé au milieu des années 90, d'abord pour apporter une réponse à des gens, des personnes qui étaient atteintes du sida.
Tout à fait. Les années 90, avec le sida, les personnes se retrouvaient sans soutien. C'était que les familles qui s'occupaient des personnes. Et après, les personnes elles-mêmes touchées se sont organisées et ils ont créé ce qu'ils appelaient à l'époque les appartements relais et qui étaient expérimentaux. Et avec le temps, ces dispositifs qui étaient expérimentaux, c'est-à-dire les années 2002, ils sont entrés dans le cadre de la loi et comme établissement médico-social. Et en même temps que ces appartements relais qui accueillaient les personnes seulement touchées par le VIH, on a élargi à l'ensemble des pathologies
dites chroniques. Cette réponse-là, elle pouvait convenir à plus d'autres types de maladies, c'est ça?
D'autres types de maladies comme le cancer, le diabète. Et effectivement, d'ailleurs, dans les établissements que nous fédérons, qui sont au service des personnes, nous avons à peu près 47% des personnes qui ont la pathologie VIH. Et le reste, c'est d'autres pathologies comme le diabète, les hépatites ou le cancer.
200 structures en France, hein, ça fait des milliers de places d'hébergement de cette nature-là. On peut dire aussi que les personnes que vous accueillez, elles ont aussi souvent des problématiques multiples, c'est-à-dire une maladie, mais éventuellement une addiction en plus, éventuellement un problème psychiatrique qui vient s'ajouter. C'est ça votre particularité, c'est de prendre les personnes qui ont, j'allais dire des cas complexes, mais tout le monde est complexe, mais des situations qui appellent des réponses diverses.
Alors, effectivement, par rapport à l'évolution, je souhaitais préciser qu'effectivement, il y a une évolution même en termes de places. Hein, vous parliez de 200 structures. Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 places, hein, appartements de coordination thérapeutique, alors qu'on était à 597 en 2004. Donc une évolution quand même, non seulement en termes des personnes, des pathologies.
Parce qu'un vrai besoin.
Voilà, il y avait un vrai besoin. Maintenant, effectivement, les personnes qu'on accueille, ils sont plusieurs pathologies, on pourrait dire pluripathologies ou comorbidités. Effectivement, par exemple, nous avons un outil d'observation qui est le bilan national. Chaque année, on produit un bilan qui montre les besoins des personnes, mais aussi les caractéristiques. Parmi ces besoins, par exemple, on a 7000 demandes de place et on n'arrive pas à y répondre parce qu'il y a quand même toujours un manque de place. Même s'il y a assez autour de 2000 places, il y a toujours un manque constant. Et à travers ce rapport, on montre aussi, on a constaté, par exemple l'année dernière, que 32% des personnes avaient une maladie chronique et qu'il y avait une comorbidité de 32% pour la pathologie psychiatrique. Donc effectivement, nous avons des personnes qui ont plusieurs pathologies et c'est pour cela que dans les équipes qui accompagnent ces personnes, elle est aussi plurielle ou pluridisciplinaire.
Alors pluridisciplinaire, on entend l'aspect médical, c'est-à-dire on imagine qu'il y a des psychiatres, des médecins, je ne sais pas comment on les appelle, spécialistes du VIH, des médecins spécialistes du diabète, mais pas uniquement, et ça vous y tenez, pas uniquement des professionnels de santé.
Pas uniquement les professionnels de santé, c'est les travailleurs sociaux, c'est les infirmiers, c'est les aides-soignants, des fois des aides médico-psychologiques. Et puis, il y a un mot sur lequel je tenais à insister, la coordination. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a effectivement plusieurs situations, plusieurs pathologies. On a en fait le rôle du médecin dans les appartements de coordination thérapeutique, ce n'est pas de prescrire, c'est... Si une personne a le VIH, a le diabète, a l'hépatite, il faut quelqu'un qui mette en mouvement, qui mette en lien, au profit, dans l'intérêt de la personne, tous les acteurs et les spécialistes qui interviennent. Donc effectivement, on est une équipe pluridisciplinaire, médicale, sociale, psychosociale, parce qu'il y a des psychologues aussi dans les équipes, donc pour prendre toutes les dimensions de la personne, l'accompagner vers l'autonomie, l'accompagner vers le soin, l'accompagner vers l'accès au logement et aussi le maintien dans le logement. C'est vraiment un outil qui est un avantage parce que on a la personne dans la tête. Les personnes, comme je le disais tout à l'heure, peuvent rester de 6 à 18 mois. Et sur les lieux, on a des personnes qui ont plusieurs regards et par exemple qui peuvent favoriser la mise en place de l'éducation thérapeutique du patient.
on a quand même l'impression que c'est le boulot ordinaire d'un médecin de coordonner avec l'ensemble des acteurs de santé autour d'une personne. Finalement, ça marche pas si bien que ça, au point qu'il faille créer une structure de coordination.
Vous savez, la question pourrait même se poser aujourd'hui. Les médecins, effectivement, c'est le boulot du médecin, mais j'ai tendance des fois à dire que c'est la personne aujourd'hui qui coordonne. Parce qu'effectivement, cette coordination est nécessaire. La mise en place des médecins traitants, on attendait ça aussi, cette coordination. Mais on se rend compte qu'il faut quand même la renforcer, qu'il faut quand même insister là-dessus, parce que tous les médecins ne se parlent pas toujours, ou parce qu'ils sont pris par leur temps, ou parce que c'est pas organisé, ou cette coordination.
Faut l'organiser. L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lottmann.
On parle d'hébergement quand on a un problème de santé, un problème de précarité. Leonard Dilltunga est notre invité. Vous présidez la Fédération nationale des hébergements autour du VIH, des hépatites, des problèmes de psychiatrie, du diabète, du cancer. Il y a beaucoup finalement de personnes qui sont concernées par ces besoins d'hébergement. Mais alors une fois qu'on arrive chez vous, c'est quoi le projet finalement? Parce qu'on a dit on peut rester quelques mois chez vous. Et après, on fait quoi et comment est-ce qu'on permet aux personnes de se retrouver, j'allais dire, une vie ordinaire et de retourner vers un hébergement peut-être de ordinaire et un suivi de soins qui relève du droit commun? Qu'est-ce qu'on fait chez vous?
Alors, déjà, au niveau de la fédération, nous, on n'accueille pas des personnes. C'est les associations que nous fédérons qui accueillent les personnes. Nous, notre rôle de la fédération, c'est continuer des réflexions, des formations et de les accompagner vers l'amélioration des pratiques. Pour cela, on organise des rencontres qu'on peut faire autour des colloques et qu'on porte sur les questions d'actualité et qui permet aussi de prendre conscience des questions qui se posent du moment. Et maintenant, quand la personne arrive dans ces structures, dans nos associations, c'est qu'effectivement, on aide la personne. D'abord, on permet à la personne de s'opposer. Et de s'opposer et de travailler avec la personne. Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la dimension de l'implication, de la participation de la personne. Et on travaille avec la personne, avec les besoins de la personne. Donc la personne.
Il faut la remobiliser parce qu'elle a tendance à peut-être abandonner à la fois le combat contre la maladie et puis d'avancer dans son parcours social. C'est quelque chose comme ça?
Quand on a la maladie peut isoler, et la maladie, surtout le VIH, vous le dites tout à l'heure, peut être stigmatisante. On peut être dans une situation administrative difficile, irrégulière. Donc, on permet à la personne de s'opposer. Et selon les situations, on l'aide à commencer le soin, à s'y maintenir, à être observant, c'est-à-dire à prendre régulièrement ses médicaments. On l'aide aussi à comprendre sa médicament, sa pathologie, sa maladie et vivre avec. Mais on l'aide aussi à accéder aux droits. Logement, c'est aussi un des droits. On l'aide aussi à mettre un peu de l'ordre dans sa situation parce qu'il y a des fois où il peut être découragé, les personnes peuvent être découragées. Donc on est aussi en soutien.
On peut dire qu'il y a des gens qui passent à côté de leurs droits, par exemple d'allocations ou de soutien, simplement parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas repéré les lieux qui pouvaient les aider.
Alors, par exemple, deux choses. L'année dernière, les personnes qui arrivaient dans nos dispositifs, dans les appartements gérés par les adhérents, il y avait 28 personnes, quand à l'entrée, n'avaient aucun droit. N'avait pas de ressources. À la sortie, il y avait que 7%. Donc, il y a des personnes qui effectivement peuvent passer à côté parce que ils ne connaissent pas, parce que c'est lourd, parce que c'est un chemin long et que le travail qui est fait, c'est aussi de les accompagner. Et les personnes que nous accueillons dans les dispositifs, c'est des personnes pour la plupart qui étaient dans des hébergements précaires, qui étaient des fois dans la rue et comme je le disais tout à l'heure, 50% des personnes sortent vers du logement de droit commun. Ça, c'est vraiment un des éléments de la qualité et de l'efficacité du travail qui est réalisé dans ces dispositifs.
Leonard Dilltunga, la citoyenneté, l'inclusion des personnes malades dans la société, ça passe aussi par le travail, une activité. Est-ce que les gens qui sont chez vous, d'abord, ils ont quel âge? Tous les âges, entre 18 et 60 ans.
Entre 18 et 60 ans, c'est tous les âges. Vous avez raison.
Et qu'est-ce qu'on fait sur le travail et sur l'emploi?
Vous avez raison, c'est une vraie problématique. Là, il y a le travail de manière générale pour toute personne, mais là, les personnes qui ont des pathologies chroniques, il y a une question de fatigabilité. Il faut trouver des rythmes qui soient adaptés à la fatigabilité des personnes. Par ailleurs, il y a des personnes qui vieillissent plus rapidement parce que la pathologie, notamment les gens qui ont le VIH, vieillissent précocement. Donc, effectivement, c'est une vraie problématique. Nous avons pu participer par le biais de notre fédération dans le cadre du plan qualité de soins, qualité de vie, où effectivement nous avons participé et porté cette problématique dans le cadre de l'évaluation de ce plan, notamment sur la question de l'insertion. L'insertion, c'est aussi, vous avez raison, c'est l'inclusion sociale. Et quand on rencontre la personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande? Vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez où? Donc c'est effectivement une vraie problématique qui nécessite qu'on se mobilise, que tout le monde se mobilise.
Et dernière question, Leonard Zitunga, on parle beaucoup de réduction de budget, on parle de coupes dans les dépenses de santé. Est-ce que vos structures qui sont innovantes, aujourd'hui, elles sont pérennes 20 ans après leur création? Est-ce que aujourd'hui, ces réponses qui apportent, on le voit bien, hein, des réponses de proximité à ces personnes, est-ce qu'elles sont aujourd'hui pérennes?
Alors, il y a, comme on disait, on fédère plusieurs dispositifs. Les ACT aujourd'hui, les appartements de coordination thérapeutique, on peut dire qu'elles sont pérennes, sont inscrites dans la loi. Le financement est là, 30 000 euros par place. Les appartements relais, qui aussi est en complément, sont moins pérennes. Il y a presque plus de financement. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, les personnes qui quittent ces dispositifs, ils vont dans le logement. Il y a un besoin de continuer cet accompagnement dans le logement, ce que d'ailleurs font nos aidants. Par contre, cet aspect-là, qu'on appelle l'accompagnement de suite, c'est pas financé. Et autre chose aussi, les personnes que nous accueillons, il peut y avoir une personne qui est malade et il y a sa famille. Ce qu'on appelle les accompagnants, là, c'est pas encore financé. Donc, il conviendrait effectivement de stabiliser et d'inscrire effectivement le financement dans leur cours. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à la loi de santé qui va venir, elle est taxée sur le parcours. Nous excluons dans son parcours, mais il faudra que toutes les étapes du parcours soient prises en compte, reconnues d'une part, mais aussi reconnues financièrement. Et nous travaillons avec nos partenaires pour y arriver.
Leonard Zitunga, merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Vivre FM. On rappelle que la Fédération Nationale des Hébergements, vous tenez votre colloque ces jours-ci, 24, 25, 26 juin, c'est à Toulouse que ça se passe. Et on a toutes les infos sur fnh-vih.org pour peut-être trouver aussi par ce biais-là des structures d'hébergement à côté de chez soi. Merci d'être venu nous voir.
De votre invitation.
Merci
et
beaucoup.
On invite tout le monde de venir à Toulouse pour le colloque où on partagera les expériences. Voilà.
Ça se passe sur fnh-vih.org. Merci beaucoup, Leonard Zitunga, d'être venu nous voir ce matin.